Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel sur 106.3 FM, c'est Zoom Écologie. Alors pour cette rentrée, on a prévu un petit sujet sur le G7 qui a tenu en haleine absolument toute la France, ou peut-être pas grand monde, on ne sait pas, pendant la fin du mois d'août. Ce G7 étant consacré normalement à la solidarité et à l'écologie, on s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas en parler, et ne serait-ce que d'un point de vue politique, histoire de comprendre un peu ce qui s'y est passé, ce qui s'y est pas passé et pourquoi. Alors pour nous parler de ça, nous avons un témoin de première main, à savoir Camille, qui était sur place.
Bonjour.
Et donc il va pouvoir nous raconter comment ça s'est passé, tout ça. Nous, on doit bien avouer qu'on n'y était pas, voilà, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Et donc on ne pourra pas vous en parler à la première personne. On a quand même fait quelques recherches sur le sujet, mais voilà, on n'y était pas, on n'était pas témoin des événements. Alors, peut-être petite précision, c'est que on ne sera pas là pour faire des leçons, distribuer les bons et les mauvais points, puisque d'abord on n'était pas présent. Et ensuite, il s'agira peut-être plus, on va dire, d'apporter des éléments un peu factuels de façon à comprendre ce qui s'est passé et peut-être quelques éléments, on ne sait pas, mais en tout cas, de façon à ce que les personnes qui veulent, que ça ne se reproduise pas et quelques éléments. Voilà. Alors, peut-être on peut commencer par parler de l'origine de ce G7, comment c'est venu. Je ne sais pas si Pauline, tu as quelques éléments sur ça, sur d'où ça sort cette affaire.
Donc oui, le G7, c'est une réunion de chefs d'État qui existe depuis 1975 et qui est à la base la réunion des chefs d'État des 7 pays les plus industrialisés, c'est-à-dire la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, le Japon et l'Italie. Donc ça, c'était les 7 pays les plus industrialisés en 1975, et on peut aussi se poser la question de, aujourd'hui, en 2019, ne figure pas, par exemple, la Chine ou l'Inde dans cette grande réunion, ce qui déjà nous donne un peu une idée sur l'efficacité, ou en tout cas, au moins sur le fait que c'est un peu daté comme système d'organisation, même si en parallèle, il existe des G20. Par ailleurs, ce G7 de août 2019 à Biarritz, il était annoncé comme ayant comme thèmes principaux les inégalités et l'environnement. C'est aussi pour ça qu'il pouvait être intéressant de se pencher un peu sur ce qui s'y est fait et dit, puisque évidemment personne n'était dupe sur le fait que le G7 allait vraiment lutter pour l'environnement et contre les inégalités. Mais en même temps, ça pouvait aussi être l'occasion de porter en tout cas un contre-discours. Voilà. Donc ce G7, il avait aussi été annoncé comme bizarrement une espèce d'échec annoncé, ou pas en tout cas d'échec, mais de réunion qui mènerait à rien. Il avait été annoncé dès le début par Macron qu'il n'y aurait pas de communiqué commun des chefs d'État et qu'il n'y aurait pas de décision majeure de prise sur ces thèmes-là pendant le G7. Et pourtant, la presse française, depuis, en parle comme un grand succès. Donc on peut aussi se dire que c'est une opération de communication. Voilà. Et donc ça, c'est pour le G7 lui-même. Et ensuite, il y avait le contre-G7, qui est le point qui va nous intéresser plus aujourd'hui. Car comme on le sait, depuis au moins une vingtaine d'années, quand il y a des grands sommets internationaux, il y a aussi souvent des contre-sommets. Et que l'objectif de ces contre-sommets, voilà, c'est en général de venir porter des revendications alternatives et plus radical que ce qui va être décidé entre chefs d'État.
On peut peut-être même rajouter que c'est devenu une figure imposée des, des sommets et que les contre-sommets ont tendu à être de plus en plus intégrés aux sommets eux-mêmes. Et si on prend l'exemple de la COP21, où tout ce qui était les réseaux d'action climat étaient vraiment intégrés dans les discussions, ce qu'on appelle la société civile qui prend sa place. C'est quand même quelque chose, je ne sais pas si c'est ça qu'ils ont voulu faire cette année, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, que de plus en plus, les contre-sommets font partie du sommet.
Oui, alors là, le contre-sommet du G7 à Biarritz, il était organisé, en tout cas... Oui, on peut dire organisé par une coalition d'organisations qui s'appelait G7S pour la partie basque de l'organisation, qui était donc composée d'organisations basques diverses, hein, écologistes, syndicales, organisations de gauche, etc., et d'organisations françaises et internationales, humanitaires ou altermondialistes, comme ATTAC, écologistes et syndicales. Donc il y avait la Confédération paysanne, les Amis de la Terre, Sortir du nucléaire, et puis des syndicats comme Solidaire, la CNT, la FSU. Voilà, donc ça, c'est un peu le qui a organisé ce contre-G7. Par ailleurs, la contestation, elle n'a pas commencé avec le contre-sommet, puisque si on se rappelle, en fait, au mois de décembre, il y avait déjà eu une grosse manifestation à Biarritz, au moment de la visite du ministre de la Défense, Le Drian, qui devait venir à Biarritz pour préparer le sommet. Et donc, il y avait une grande manifestation... de gilets jaunes et autres, qui étaient appelés par une coalition assez large et qui avait été pas mal réprimée et qui s'était traduite par une grosse émeute et une grosse répression.
Qui était peut-être, ça faisait peut-être longtemps qu'il n'y avait pas eu d'émeute à Biarritz d'ailleurs.
Oui, c'est possible. et donc voilà, donc cette contestation, elle avait commencé avant le contre-sommet. Mais alors si on regarde un peu plus précisément ce contre-G7, c'est là que je vais passer la parole à Camille. Est-ce que tu peux nous décrire un peu où est-ce que ça avait lieu? Et un peu à quoi ressemblait du coup à quoi ressemblait cet endroit, le contre-sommet, ouais, par rapport à la ville et par rapport.
Théoriquement, il y avait trois lieux où ça se passait, mais pour ce qui est de la plupart des gens, surtout, étaient sur le camp, ce qu'on a appelé le camp, donc là où il y avait les dortoirs, les logements, je veux dire, les tentes, en fait, les campings, la cantine et puis un certain nombre. Des AG qui se déroulaient, etc. Et puis après, il y avait le lieu de conférence auquel, j'avoue, moi, je n'ai pas été. Et un autre lieu qui était... pour le lieu principal, on va dire, théoriquement d'organisation, c'était donc aux alentours d'Andail, dans un ancien... dans un endroit qui appartenait avant à Nestlé, où c'était un spot de vacances, quoi, et qui était mis à notre disposition. Donc c'était vraiment très, très grand. Pour y accéder, il fallait arriver par... la plupart des gens... c'était pas si difficile d'y arriver, mais il fallait savoir comment y arriver. Mais en réalité, il y a une route qui était sur la corniche, on va dire, qui, elle, était nous, alors, on est arrivés le vendredi, mais par ailleurs, avec un dispositif policier énorme, etc. Et par contre, il y avait une petite route par derrière que personne ne connaît, mais... à partir du moment où on était sur cette route, on arrivait au camp sans aucun souci.
Parce que, attends, ce qu'il faut dire aussi, c'est que donc ce camp, il est, je ne sais pas si tout le monde se représente la géographie du Pays Basque, mais en tout cas, c'est loin de Biarritz.
Ah oui, ça n'a rien à voir avec Biarritz. C'est vraiment à 7 heures de marche de Biarritz. C'est à, environ une heure de voiture. Ça n'a vraiment rien à voir avec Biarritz. C'est sur la côte à Andail, en plein milieu d'une ville qui, en fait, on l'a découvert après, au cours du week-end, vivait sa petite vie de cité balnéaire, mais dans le plus total l'indifférence et l'ignorance même, parce que vraiment, quand on était à Andail même, au centre-ville et sur la plage, il n'y avait aucune trace du fait qu'à une heure de marche de là, il y avait un camp avec des milliers d'altermondialistes, anarchistes, antifascistes et autres... et autres militants, ça se voyait pas du tout, quoi. Par contre, sur le camp, il y avait une effervescence militante hyper forte, mais qui, en fait, c'était un entre-soi total, et personne ne nous a vus, personne ne nous a entendus.
Parce que le camp lui-même est loin de Andail. C'est-à-dire qu'Andail est loin de Biarritz, et le camp est loin d'Andail.
Le camp était environ... il y avait eu un... pour aller à la manifestation officielle qui partait vraiment du centre des belles plages, etc., d'Andail, il y avait une heure de marche. Et il y avait des navettes qui avaient été proposées, mais bon, nous, on les a ratées en l'occurrence. Mais on, voilà, pour donner une idée, le camp était déjà à une heure de marche du centre-ville d'Hendaye, ville qui était elle-même, de toute façon, à 7 heures de Biarritz, à je sais combien de Bayonne, enfin non, pardon, 7 heures de Bayonne, je sais pas, de Biarritz, mais enfin, cet ordre-là d'éloignement complètement...
Et donc ça, sachant que c'était déjà quelque chose qui avait été négocié. À la base, ils voulaient le mettre dans les Landes, enfin, voire encore ailleurs que dans le sud-ouest. Enfin, et ça fait partie des négociations du... En fait, le printemps sert à ça, j'ai l'impression, de, pour l'organisation, de négocier l'endroit et les conditions d'accueil de ce contre-sommet, non ?
Moi, je n'ai pas du tout suivi l'amont, on va dire, mais effectivement, j'ai vu qu'il y avait le maire d'Hendaye qui avait... garantie que ça ne le dérangeait pas d'accueillir ce camp, qu'il n'avait aucune crainte. Enfin, ça semblait avoir été voilà, négocié avec les maires locaux. Enfin, il y a dû avoir plusieurs formes de transactions.
Alors, tu disais qu'il y avait plusieurs lieux. Il y avait le camp sur lequel on va revenir dans un instant. Et il y avait aussi des lieux de conférence. Ça, c'était...
Alors, il y avait le FICOBA, je crois, le centre de conférence, qui était juste à Irun, donc après la frontière espagnole.
Donc ça, c'est encore à plusieurs kilomètres de là où
vous dormiez. Et ça, c'était environ... oui, c'était encore à plusieurs kilomètres, puisque, en gros, la manif déclarée du samedi matin passait, allait de Hendaye à Irun. Et c'était précisément environ 2 heures de marche, on va dire. Et ça allait du centre de Hendaye jusqu'à ce centre des conférences, le FICOBA. Donc, effectivement, encore 2 heures. Donc, de toute façon... Sans voiture, etc., c'était quasiment impossible de rallier ces points. En tout cas, enfin, on pouvait le faire une fois dans la journée, mais ça allait prendre l'intégralité de l'énergie militante de chacun et chacune, quoi.
Ouais.
Je vais briser.
Voilà, en fait, ça nous amène un peu à poser des questions sur ce camp, à part du coup être le point de base où les gens dorment, se nourrissent, etc. Est-ce que ce camp, il avait pour but d'être un lieu d'organisation ? Est-ce que toi, tu l'as perçu comme ça, d'être un lieu d'organisation ? Sachant qu'il y avait un appel à rejoindre ce contre G7, à la fois donc de la plateforme dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi d'un tas d'autres acteurs et actrices politiques, des organisations qui ne faisaient pas forcément partie de cette plateforme d'origine, et puis des collectifs plus informels, des collectifs gilets jaunes, des collectifs de différentes régions qui sont habitués aux appels de manifs, etc. Donc est-ce qu'il y a eu cohabitation ? Est-ce qu'il y a eu organisation collective sur le camp ou ailleurs entre ces différentes tendances ? Et qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de la cohabitation entre ces différentes tendances et ces gens qui arrivaient peut-être pas tous avec exactement les mêmes revendications et les mêmes modes d'action ?
Mais en fait, bon, la première AG à laquelle j'ai assisté, en fait, c'était le samedi soir, donc c'était déjà, enfin, ça faisait déjà plusieurs jours qu'il y avait des AG. Donc j'imagine que, enfin voilà, j'ai raté tout un, enfin, on n'a pas tout vu, mais clairement, en tout cas, arrivé à ce moment-là du contre-sommet, il n'y avait plus aucune forme de discussion ou de prise de décision collective en AG. Il y avait même un dédoublement des AG. Puisque nous, voilà, on nous a proposé de façon informelle une AG le vendredi soir, mais qui commençait à 1h du matin, enfin théoriquement à minuit, mais qui a commencé à 1h du matin, et qui, celle-ci, voilà, nous avait, enfin, qui était du bouche à oreille. Et puis il y avait l'AG un peu officielle, enfin pas officielle, mais disons l'AG proposée par les organisateurs et organisatrices, qui, elle, commençait à 9h le samedi matin et devait être avant la manifestation. Et très clairement, les gens qui entendaient faire une AG à 1h du matin... n'allaient pas à la manifestation de Handaï, et vice-versa, les gens qui allaient à l'AG de 9h du samedi, c'était pour aller à la manifestation, et par contre, ils n'avaient absolument pas aucun intérêt à discuter des autres choses. Après, j'imagine que voilà, il y a des AG le mercredi, le jeudi, où déjà, je pense qu'il y avait déjà eu, je pense, des formes de discussion qui ont mené à rien, donc les gens ont décidé d'arrêter de parler ensemble, j'imagine. Après, je pense que le camp a été un lieu d'organisation, mais pas d'organisation collective où tout le monde prenait part. Je pense que tout le monde a, voilà, chacun a trouvé à s'organiser de sa façon, mais finalement, en sortant pas tellement des groupes affinitaires, ça permettait d'être une base, ça permettait. L'impression que ça donnait de l'extérieur, c'est que chacun restait avec les gens avec qui il militait habituellement, dont il connaissait les méthodes. Enfin, ça n'a pas créé d'organisation plus large que de groupes qui venaient avec leur propre...
Mais peut-être aussi que, étant donné la situation, ça ne pouvait pas être autre chose que quelque chose en fait, de purement logistique, de pouvoir dormir et s'alimenter si on est loin de tout. En fait, c'est assez bizarre de... Parce qu'on sait aussi que dans ces moments-là, le fait de pouvoir disposer d'un espace qui n'est pas simplement un huis clos un peu confiné, ça aide aussi. Enfin, on se retrouve en manif, on fait d'autres choses. Enfin, et c'est vrai que probablement que le fait d'être loin dans un endroit qui n'est en fait finalement qu'un camping, ça ne doit pas favoriser ce genre de choses, quoi.
Oui, et puis finalement, il n'y a pas eu d'action. Enfin, en fait, si on regarde vraiment sur l'intégralité des 5-6 jours, il n'y a eu aucune action à laquelle tout le monde a pris part avec ces méthodes, avec des méthodes qui peuvent être différentes, mais on avait vraiment l'impression qu'il y avait un ensemble de militants, militantes qui suivaient vraiment la plateforme. Donc voilà, moi j'ai vu des gens qui avaient des super tentes avec le total camping et tout ça, plutôt des militants plus âgés, dont on sentait qu'ils attendaient la manifestation du samedi et puis après retour au camp et on s'en va. Et des gens qui n'ont pas envie, qui ont plus envisagé à partir du moment où il y a eu une condamnation claire et nette de la moindre tentative de dégradation, de violence, y compris symbolique, si tant est qu'on puisse exercer des violences symboliques contre l'État. on a bien compris qu'il y avait toute une partie des militants présents qui ont décidé de tout simplement pas y aller. Mais dès lors, il n'y a eu aucune action qui a rassemblé plus qu'une infime partie des gens. Ouais. Donc on ne s'est même pas rencontrés ni en AG, ni en action, nulle part en fait.
Oui, donc pour bien comprendre là ce que tu nous racontes, il faut peut-être revenir un petit peu en arrière sur notamment l'appel des plateformes qui était un appel assez classique dans le cadre des contre-sommets qui visait à... Je pense que la formule dans l'appel, c'est faire entendre nos voix et nos exigences. et avec tout un agenda de revendications qui était de l'ordre de voilà, un État social, des limites au libre-échange et au libéralisme économique, de la régulation, de l'ouverture des frontières, etc. Donc des revendications qu'on connaît bien. Et le point de tension, manifestement, il s'est pas tant fait sur les revendications que plutôt sur les modes d'action, puisque les acteurs et actrices de cette plateforme ont publié, il me semble, au début de l'été, ce qu'ils ont appelé un consensus d'action, c'est-à-dire une espèce de feuille de route qui avait pour objectif de cadrer les façons de faire des gens qui allaient participer à ce contre-sommet et qui disaient vraiment... les formulations, c'est montrer que nous nous mobilisons pour construire un autre monde, mettre en évidence la diversité des mouvements. Et il y avait aussi un engagement à ne rien dégrader et à employer des méthodes non violentes et pacifiques et à refuser les stratégies de confrontation avec les forces de l'ordre. Donc en fait, il y avait déjà, en amont du contre-sommet lui-même, il y avait déjà quelque chose qui était très cadré. Et en fait, tout l'implicite et tout ce qui a été dit et communiqué tout autour, juste avant l'organisation du contre-sommet, c'était en gros le camp. Les organisateurs de cette plateforme refusaient qu'il soit un lieu aussi pour des gens qui pouvaient avoir d'autres modes d'action que des modes d'action non violents et déjà cadrés et qui sont des modes d'action qui ont déjà été expérimentés dans des contre-sommets, je pense, depuis la fin des années 90, début des années 2000, et qui ont pas toujours fait leurs preuves. Mais bon, voilà, c'est... Donc, pour comprendre ce que tu dis là sur les conflits à l'intérieur du camp, c'est aussi parce que ça s'enracine là-dedans sur le... En tout cas, ce qu'avaient posé les organisateurs et organisatrices de la plateforme.
Oui, puisque ce qui est un petit peu étrange, c'est que, enfin, il y avait par exemple cette tente en soutien aux Gilets jaunes ou l'argent qu'on donnait pour manger, aller à la caisse des Gilets jaunes, etc. Mais en fait, il y avait absolument pas de représentation des Gilets jaunes et c'était pas tellement des personnes se revendiquant du mouvement des Gilets jaunes qui posaient les questions des modes d'action, etc. Bon, de toute façon, il y en avait très peu. C'était vraiment, ça venait pas tant d'eux. Après, quand on est arrivé là-dedans, le vendredi, en tout cas, il n'y avait plus de discussion autour de... C'était plus que de la provocation. On pourrait même pas vraiment parler de conflit, au sens où le conflit, il n'avait même pas lieu pour s'exprimer, parce que la question, elle n'avait pas le droit d'être posée, en fait. Enfin, vraiment, moi, j'ai vraiment... Les AG, c'était... Enfin... Genre, l'AG du dimanche soir, c'était « si vous n'êtes pas content de ce qu'on a fait ce week-end, c'est que vous êtes des militants encore trop peu aguerris, trop peu, vous n'avez pas assez d'expérience, donc vous ne savez pas ». Et clairement, après, je ne veux pas faire une sociologie un peu spontanée, mais il y avait quand même une fracture qui était aussi une fracture générationnelle, qui était aussi une fracture sociale, où on voyait bien que c'était des mondes militants, en fait, qui se recoupent assez peu, où on avait quand même on avait des discours dont on sentait qu'ils venaient d'une certaine gauche on a eu des discours on avait l'impression d'être des enfants passage face à une institutrice. On s'est fait tirer les oreilles parce qu'il y avait des tacs dans les toilettes et que vraiment, quel manque de respect, si on se respecte pas soi-même, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on va respecter les autres en étant de gauche? Enfin, vraiment des choses, mais... hallucinante, vraiment hallucinante, dans un cadre de contre-sommet où on s'attend à une forme de radicalité. Au moins, pas forcément... Enfin, il peut y avoir des accords sur les modes d'action et sur... ça, c'est clair. Mais au moins sur le discours. Et là, on tombait un peu des nues. Et clairement, je pense qu'une partie des gens ont décidé de ne plus... En tout cas, au bout de probablement un certain temps, d'arrêter d'essayer de débattre avec eux. Et malheureusement, je comprends vraiment, quoi. Pour dire, on fait nos trucs et puis on tague aussi dans les toilettes des choses pas très agréables pour un peu faire bisquer. Mais en fait, ils les prennent pour des idiots finalement, parce que c'était ça. Ils les prenaient pour des débiles.
Ce qui est presque un peu étonnant, donc de loin, on va dire, depuis les médias alternatifs et les quelques flux qu'on pouvait avoir, était que les discussions prenaient plus de temps sur des provocations, ce qui était dit des provocations et remontrances, on va dire, que sur un débat politique de ce dont il s'agissait de faire. Et le plus étonnant est peut-être que je crois n'avoir pas entendu une seule chose sur ce qui devait être le cœur du contre-sommet, à savoir les conférences. J'arrive même pas à savoir si vous, au camp, vous étiez ne serait-ce qu'au courant du programme et de ce dont... on avait l'impression que les organisateurs se parlaient à eux-mêmes dans les conférences et que finalement le camp pouvait vivre sa vie par ailleurs. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'as ressenti. Mais...
Bon, clairement, le fait que le lieu des conférences était déjà à 2 heures de marche du camp, quand on ne vient pas tellement pour ça à la base, c'est quand même un peu rédhibitoire. Et quand même étonnant, enfin, j'ai du mal à comprendre qu'on ne puisse pas faire des conférences au sein même de là où on dort et on mange, ce qui me paraît quand même le béaba, mais bon. Donc l'impression que j'ai, c'est que vraiment les conférences, c'était plutôt une vitrine pour tous les gens qui n'avaient pas du tout l'intention de venir camper dans ce genre de lieu, mais qui étaient des sympathisants vaguement de gauche du coin, qui allaient voir une conférence... le vendredi après-midi, voilà, pour s'instruire ou quoi, voilà, mais que c'était absolument pas dédié au même public. Bien que je pense qu'il y a des gens qui ont fait les deux, mais clairement, enfin, c'était pas du tout qu'on communiquait, enfin, on n'a pas entendu dire, oh là là, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a telle conférence, comment on y va, ça m'intéresse trop, enfin, pas du tout, c'était vraiment, et clairement, il y avait une dimension institutionnelle. Enfin, c'était la gauche institutionnelle et se parle à elle-même et s'autocongratule du nombre de gens qui sont venus. Mais j'ai aucune idée.
Et peut-être aussi, donc, on dirait presque la différence par rapport aux autres contre-sommets, c'est qu'il n'a jamais été question d'une mise en échec du sommet. Voilà.
C'est clair.
Et donc peut-être il y a déjà un malentendu. Ça a été dit très clairement dès le début. Et ensuite, que ça ne tire pas non plus, on dirait que les Gilets jaunes n'ont pas eu lieu, quoi. C'est assez étrange. Comme s'il n'y avait pas eu plus de 6 mois de mouvement social qui refonde assez profondément la façon de s'exprimer politiquement, de faire savoir son mécontentement, comme si ça n'avait pas eu lieu, quoi.
Ouais, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur... Déjà, tu parlais des AG qui ont eu lieu. Donc, si ces AG, elles ne servaient pas vraiment à s'organiser et à organiser les actions, qu'est-ce qui s'y est passé? Et il me semble qu'il y avait aussi une action, quand même, malgré ce que tu viens de dire, qu'il y avait une action de blocage qui était prévue, qui finalement n'a pas eu lieu, mais il y avait une action de blocage qui était prévue le dimanche et qui visait à bloquer les accès à Biarritz, si je ne me trompe pas, et à plusieurs endroits dans la région. Donc, est-ce que cette action de blocage, elle a été discutée collectivement pendant le camp, ou est-ce que tu as plutôt eu l'impression que tout était déjà verrouillé d'avance? Et du coup, voilà, ça me permet de faire le lien entre les actions et les AG. Est-ce que si les AG, elles servaient à discuter ce genre d'action, ou est-ce qu'elles servaient à autre chose? Et si oui, à quoi? Si tu veux nous en dire 2 mots.
Mais alors, pour l'AG que j'ai vraiment vécu sur le temps long, qui est celle du samedi soir, donc après... Enfin, la journée la plus théoriquement qui devait être la plus chaude en termes de mobilisation, etc.
Peut-être on peut dire c'est donc la fameuse manifestation pacifiste, enfin en tout cas qui se voulait familiale d'après les termes, qui devait rejoindre Irun et voilà qui était censé amener quelques milliers de personnes. C'était la déambulation.
Ouais, et qui donc a eu lieu tout à fait, enfin qui a pour le coup, je pense, s'est déroulé exactement comme les organisateurs le souhaitaient. Mais dans le même temps, il y avait aussi cette journée-là, il y avait eu un appel plus informel à aller à Bayonne, lancé par tous les gens pas très convaincus par cette manifestation déclarée. Et donc, en fait, tout l'enjeu était, vu que l'horaire n'était pas le même, c'était 11h la manifestation déclarée. Et puis, dans l'après-midi, plutôt vers 16h, d'essayer de faire quelque chose à Bayonne. A priori, c'était pas complètement impossible de faire les deux, même si on en a parlé, le transport, etc. Enfin, c'était loin d'être simple. En fait, il s'avère quand même que à l'AG, justement, des gens ont quand même parlé de cette action et ont dit que tous les gens qui avaient voulu aller à Bayonne avaient réussi à aller à Bayonne, que bien que ça ait pris du temps, c'était tout à fait possible, etc. Mais par contre, donc l'AG était censé... c'était un échange d'informations déjà sur ce qui se passait à Bayonne, mais en fait, c'était pas le centre de la... D'abord, c'était 10 minutes de conférence, d'une personne, d'un organisateur qui était censé faire l'ouverture de l'AG, mais qui, en fait, tout de suite commençait par « c'était un grand succès, nous étions 15 000 », enfin, c'était le communiqué de presse qui avait été écrit de toute façon avant même la manifestation, qui était lu, enfin, pas lu, puisque voilà, mais qui était... professé, mais en fait la question de savoir si c'était un échec ou pas, par exemple, c'était pas une question, un échec ou une réussite, c'était pas une question, parce que c'était l'introduction à l'AG, c'était de dire, donc voilà, nous, alors qui sommes nous, on sait pas, nous on est contents, c'est un grand succès, on était 15 000, Et en fait, c'était vraiment un communiqué de presse. Et puis avec le passage obligé il faut payer ses respects aux associations basques. Donc, c'était important d'aller de Hendaye à Irun pour montrer que la frontière, etc. Mais enfin, un truc complètement hors sol par rapport à ce qu'on avait vécu. C'est-à-dire, voilà, c'était de la communication, mais qui était faite à notre propre rencontre. Et puis, à partir de là, rien n'était en fait de débat. Après, il y a eu le même animateur a fait un bilan sur la répression, etc. Quelqu'un a essayé de dire on va les soutenir puisqu'on a plein de gens, on sait qu'ils sont au Cras d'Hendaye et puis à Bayonne. Et non, ça c'était c'est pas possible. Là, à cette heure-ci, de toute façon, c'est pas possible et pas de débat. Et puis en fait, derrière, là, ce qui a occupé les deux heures suivantes, c'était on en a marre. Enfin, si vous êtes pas content, c'est que machin. Et puis on en a marre des tags qui disent que. Et c'était que ça, quoi. Donc l'objet de l'AG, c'était de se défendre des accusations écrites sur les murs, de tirer les oreilles de ceux et celles qui écrivent sur les murs, de défendre ceux et celles qui écrivent sur les murs. Et voilà, c'était ça. Mais après, bon, nous, au bout de deux heures, j'avoue qu'on est parti. Peut-être qu'il y a eu des décisions, parce que c'était juste inepte. Oui. Peut-être que des décisions ont été prises, mais j'en doute beaucoup, puisque même la décision d'annuler l'action arc-en-ciel qui avait justement lieu théoriquement le dimanche, mais qui n'était pas organisée par par les plateformes, mais qui était juste... Enfin, c'était censé être des actions non violentes, mais donc non déclarées, parce que c'était vraiment dans le cadre de la non-violence, mais du coup, quand même...
En mode désobéissance civile, c'est ça ?
Désobéissance civique, voilà, mais qui, du coup, n'étaient pas organisées vraiment par la plateforme, ont été annulées par crainte de débordement éventuel.
Nigga never scared, lost my dad, they ain't never here. He's still alive, he just never hear me. I've been dead, guess I never cared. Flow go back, I ain't never bell. Boss gonna saw craps with a check. So you thought that, don't give me cash for some shit. Kids used to laugh at me like you would never pass. Look at me now, more with a scarf. My people pass, they bloody ready, anti-friendly. I cannot hang, big bossy. You cannot squares, bulldozing. You can never rest, hellraiser. Always on the quest, head hang low. Brains come down, swank like red. Eyes are red, mommy hate that. Never had this, just to lay down. Now it's 5 stars, for like 4 hours. Give me 3 minutes, then I'm fresh out. Two of my bros, wait at the lobby. One black whip, who I roll out. Blows and quit, let me roll that. Foot touch down, smelling like dirt. Now I see clear, they'll love me. Even with the odds all on me. And I go above cross country, let me slow down abruptly. Flow day one, you ain't got it. I serve it up, put the walk in. Back in year seven from my conscious. Check, ooh, John, what I want. Tryna put weight on my body, nigga wet. I'm so haramji. Holy water, splash it on me. Counting the stars when I'm lonely. And it's on peace, I'm my own peace. Riding for me and my homies. Listen to Wayne so many times. All I know now is dedication. Lost my patience, always go time. Mind's always racing, can't stop. Flow's been the face off so much. Now you know I rap, don't talk much. And I gotta touch, make it all work. Give them what I want when I am ready. Never second guess, I show them proof. Jam to my groove, S16 all in my shoes. Now you know why, cause it found me when I went ready. How I got through, bitch. Fall back, came back in any aim. That's fine. I remember when they never gave me shine. Now I'm doing academics with a gang. Always clean money, can't get my hands feeling all dirty. When I'm making plans, much you lose now. Won't play around, multiple spam. When I'm in the bank, what you thought that? Flow never heard, what you whispered. All in my back, see I got eyes round my body. I ain't even got up your mind, John.
Here I'm, help, help, back to the way I go. Then, left, now I'm feeling tough.
En fait, c'est ça presque le pire. C'est un peu comme il y avait eu, mine de rien, à la COP21, c'est que la manifestation n'avait pas été interdite, elle avait été simplement annulée, puisqu'elle avait été organisée par le gouvernement. Mmh. Et là, il y a un peu cette sensation-là que, de ce que tu racontes, qu'en fait, le gouvernement n'a pas eu besoin d'interdire quoi que ce soit, puisqu'il y a eu une sorte d'autorégulation assez forte de ce qui serait permis et pas permis. Et je sais pas, toi, enfin, si tu peux me décrire comment ça ressemblait cette démarche, enfin cette marche-là, déambulation de quelques milliers de personnes, où on a pu lire que malgré l'absence des flics sur le trajet, il n'y a eu aucune dégradation parce que des gens de la plateforme ont pris sur eux de protéger les banques, de en amont, pour reprendre peut-être le terme de Castaner, de neutraliser toute violence. Parce que Castaner avait dit « toute violence sera neutralisée par les forces de l'ordre ». En fait, il n'y a pas forcément eu besoin des forces de l'ordre pour la neutraliser, j'ai l'impression.
Oui. On parle de la manif du samedi matin qui faisait Hendaye-Irun, juste pour que tout le monde nous suive.
Mais en fait, ce qui est un peu... la police, pour le coup, et c'est le plus triste, c'est que précisément les organisateurs de la plateforme s'en sont félicités qu'on n'a pas vu de policiers dans notre manifestation. Mais en fait, il faut peut-être se poser des questions, parce que peut-être que dans ce cas-là, les policiers n'ont pas d'uniforme. Mais en tout cas, clairement, de l'intérieur de la manifestation, on pouvait presque ne pas voir de policiers. Bon, même si en fait, il suffisait de jeter un peu un œil derrière un pont pour comprendre qu'il y avait un escadron au cas où. Mais c'est vrai qu'on pouvait se faire croire qu'on était tout seul.
Et que du coup, avoir l'impression que vous aviez déambulé librement. Alors que,
par ailleurs, il y avait un service d'ordre quand même assez sérieux qui, clairement, avait pour mission, mais qui le disait, tout à fait, d'empêcher la manifestation d'éventuellement dévier de sa trajectoire déclarée. Mais en fait, ce dont il faut aussi se rendre compte, c'est que de toute façon, personne dans la manifestation n'aurait voulu la détourner, puisqu'en fait, les gens susceptibles de faire ça ont été, je pense, dégoûtés par tout ce qui s'est passé avant. Et il n'y avait pas de cortège de tête, il n'y avait pas de bloc, il n'y avait absolument personne en mesure de proposer ou d'impulser ce genre de choses, en fait. Enfin, c'est-à-dire que même le service d'ordre, oui, il a protégé, mais moi, j'ai pas vu de...
Il n'a même pas eu besoin de s'opposer, en fait.
D'affrontement ou d'opposition, comme on peut les voir, par exemple, dans les manifestations Gilets jaunes, où des gens, littéralement, protègent des banques, tandis que d'autres, littéralement, essayent de... Voilà, des choses où on voit que ça ne fait pas consensus, etc. Là, de toute façon, personne n'a essayé de déborder le cadre, parce que toute tentative avait été sapée. J'imagine que les gens qui entendaient faire ce genre de choses... était si peu en confiance. Enfin, on fait un communiqué pour dire que toute dégradation sera... si c'est pour se faire livrer à la police. Et ça, je pense que c'était très clairement... tout le monde avait bien conscience de ça.
Peut-être on peut écouter le satisfaci d'Aurélie Trouvé, qui est donc la porte-parole de la plateforme, suite justement à ce... je crois que c'est à la fin soit de la déambulation, soit à la fin du camp, et qui du coup nous dit à combien c'était bien.
Les organisateurs de ce contre-sommet se réjouissent de sa réussite, et notamment des 3 jours de conférences, débats, ateliers qui ont eu lieu, plus d'une centaine de conférences, débats, il faut le rappeler. Pendant ce contre-sommet, nous avons montré la force de nos mouvements et de nos alternatives face aux politiques menées par les pays riches du G7 qui aggravent les inégalités et la crise écologique. Nous avons réussi à rassembler une très grande diversité de mouvements sociaux et écologistes, féministes et luttant contre toutes les formes de domination. Les 3 jours de débat ont montré qu'au-delà de notre diversité, nous nous retrouvons sur des valeurs et des revendications communes fortes, la justice sociale, la défense de la terre et du vivant, la fin de tous les rapports de domination, en particulier patriarcale, le respect de la diversité et de la liberté des peuples, enfin le respect des droits humains, notamment ceux des migrants. Nous avons comptabilisé 6000 personnes qui ont participé dans leur diversité à près de 100 conférences. Durant toute la semaine, le camp a accueilli plus de 2800 personnes. Ce contre-sommet est un succès car nous avons su rassembler les luttes fortes de cette année, basques, françaises, internationales, et que nous nous sommes appuyés sur la richesse et la force des mouvements sociaux basques.
Donc après ce que tu nous as raconté, franchement, on a l'impression que ce communiqué, il est absolument lunaire. Il y a un truc assez hallucinant. On a vraiment l'impression qu'il a été écrit avant et qu'il ne tient absolument pas compte de ce qui a pu se dire ou se faire. Et peut-être la félicitation comptable est peut-être notable quand même. Enfin, de se compter tout le temps. Et et de mettre en avant, je ne sais pas si c'est quelque chose, comment dire, comment tu le formulerais toi sur le camp et sur l'espace où vous étiez, mais d'une peut-être qui répond aussi au truc des, enfin, au mouvement des Gilets jaunes, d'une respectabilité face au gouvernement à tout prix, quoi. Enfin, quelque chose de avant toute chose, il va falloir être respectable, être respecté, enfin, dans les formes attendues, quoi.
Oui, d'ailleurs, étonnamment, elle insiste beaucoup dans son communiqué, cette personne, sur la dimension féministe et sur la dimension lutte contre le patriarcat, etc., qui n'est pas quelque chose qui saute aux yeux quand on voit les images ou quand on entend ton récit. Donc est-ce que c'est quelque chose qui est juste une revendication formelle, ou est-ce que ça s'est traduit quand même, cette exigence féministe sur le camp ? Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur.
Mais alors, on avait un a priori plutôt positif, puisqu'on avait vu qu'il y avait un camping en non-mixité qui était proposé. Voilà. Bon, quand on est arrivé, on s'est rendu compte qu'il était à peu près vide, ce qui reste un peu mystérieux. Mais il y avait des signes encourageants, beaucoup d'affiches, notamment dans le bloc sanitaire, en plein de langues, sur le fait que les violences sexistes et sexuelles sur le camp... n'était pas bienvenue, etc. Mais en fait, on a vite compris que c'était pas du tout l'initiative des plateformes officielles, mais plutôt au contraire la réponse. Donc, tout ce qui se passait dans le bloc sanitaire, je pense, était les réponses des minoritaires du camp. Mais parce que visiblement, enfin après, ça c'est voilà, il faut pas non plus alimenter chaque rumeur, mais en tout cas, au début du camp, enfin du contre-sommet, quoi, il y aurait eu des problèmes à ce niveau-là, et puis précisément, on s'est rendu compte, enfin des femmes qui cherchaient à savoir qu'est-ce qui est prévu en cas de harcèlement sexuel, sexiste sur le camp, eh bien, rien n'était prévu, précisément parce que c'était absolument pas envisagé que ça puisse avoir lieu, puisqu'on était entre nous, entre guillemets.
Entre gens respectables, donc.
Voilà, entre gens tout à fait respectables et dans la plus pure légalité républicaine. Donc à partir de là, il y a eu des choses qui ont été faites, mais plutôt de l'ordre du bricolage de dernière minute et puis par les mêmes personnes, quoi. Et puis au niveau des âgés, clairement, la prise de parole était masculine, mais à très, très, très grande majorité, sans que ça... Enfin, disons que c'était même pas... Il n'y a aucun moment, par exemple, où quelqu'un a posé la question de « est-ce qu'on fait une double liste ?» Est-ce que c'était même pas posé. Après, voilà, on peut dire que nous, on aurait pu aussi le dire, etc. Mais quand on se rend compte que tout est déjà tellement institutionnalisé, que ça fonctionne comme ça, on arrive après 3 jours, on se dit « bon, est-ce que vraiment je prends 2 heures pour me coltiner tous les gens qui ne vont pas comprendre de quoi je parle et pas être d'accord, etc. » Bon, on aurait pu le faire. Mais en l'occurrence, en tout cas, dans l'état actuel des choses, c'était pas une question. Et puis par ailleurs, voilà, il y avait des comportements. Clairement, on a vu un mec à moitié bourré qui appelait bébé une fille qui parlait au micro pendant l'AG sans que personne ne réagisse. C'est-à-dire que vraiment, c'était pas une question, en fait. Tout était un peu de cet ordre-là. Après, clairement, c'était pas une ambiance délétère. Nous, on avait peur, mais clairement, c'était que par l'auto. C'était parce qu'on était quand même en majorité avec des gens de notre... formation politique, on va dire, au sens large, mais pas du tout par des outils proposés par les plateformes, quoi.
Oui, je pose cette question juste à la suite de la question de la respectabilité, parce que on sent que là, dans les propos du communiqué qu'on vient de passer, il y a quelque chose de l'ordre de l'autosatisfaction, de se satisfaire, d'être des opposants exemplaires, et du coup de se démarquer des opposants non exemplaires qui seraient les gens en cahouet, les gens en gilet jaune, etc. Et notamment, ça peut passer par dire « nous, on est vraiment féministes et on n'est pas des gros beaufs ». Mais voilà, c'est pour ça que je posais la question à la suite de la question de la respectabilité, qui était aussi une question très intéressante, justement, voilà, parce que ça traduit assez bien la posture des organisateurs et organisatrices de ce contre-G7.
Faudra porter des couilles, ouais, porter des douilles, ouais, porter des douilles, parce que la
Et donc, pour finir un peu, puisqu'on va, on va pas forcément, dans le cadre de cette émission, se lancer dans un grand questionnement sur... même si ce serait très intéressant, je pense que c'est des choses qui se destinent plus aux espaces militants, voilà, hors radio, hors micro, sur comment on fait pour assumer une réelle pluralité des modes d'action, quel bilan on peut tirer de ce genre de contre-sommets, sachant que ces contre-sommets, comme on le disait en introduction, ils ont quand même lieu depuis des années, et ces modes d'action pacifistes et de désobéissance civile, etc., dans certaines circonstances, cohabitent avec des modes d'action plus radicaux. Et parfois, cette composition sociale, elle peut donner des résultats. Et on l'a... Enfin, c'est aussi un peu le bilan qu'on peut tirer de la lutte à Notre-Dame-des-Landes. La victoire contre l'aéroport, elle ne s'est pas faite juste par les barricades, ni juste par la négociation institutionnelle et les festivals Bon Enfant. Elle s'est faite justement parce qu'il y avait les deux qui avançaient ensemble. Voilà. Donc ça, c'est plein de pistes de réflexion. On voulait surtout conclure quand même, parce que ce n'est pas dit dans le bilan officiel des organisateurs de la plateforme, sur la question de la répression de ce week-end-là et sur le fait qu'il y a quand même eu 119 personnes placées en garde à vue pendant le week-end et 53 qui terminent avec des procédures judiciaires. Donc certaines sont déjà passées en comparution immédiate et d'autres attendent leur tour. Et il y a des audiences prévues jusqu'au mois de décembre, si je ne me trompe pas. Et puis on peut mentionner aussi le cas de ces trois jeunes personnes allemandes qui se sont fait arrêter quelques jours avant le sommet, enfin le contre-sommet, et qui ont été jugés en comparution immédiate et placés en détention pour plusieurs mois aussitôt.
Peut-être, j'ai l'impression sur ça, il y a deux choses aussi. C'est que la première, c'est que le bilan de répression est quand même vraiment très très lourd, eu égard à ce qui s'est passé, ou plus précisément ce qui ne s'est pas passé. Et peut-être la deuxième chose, c'est on va en revenir à la plateforme, mais le silence absolu de la plateforme non G7 qui, je crois, n'a pas fait un seul communiqué sur la répression, quelle que soit sa forme. Il parle même ni des arrestations, ni des gens qui, mine de rien, se sont quand même bien fait tabasser. Enfin, il n'y a rien de tout ça, et que le seul communiqué qui soit sorti à un moment concernait justement une altercation à la manifestation entre des militants d'un côté et de l'autre, on va dire, sur le mode d'action, et donc une personne qui prenait des photos ou des vidéos s'est fait virer de la manif. Et c'est assez hallucinant quand même que le seul communiqué soit là, comme si... on n'est pas violent, donc il n'y a pas de répression, et ça ira bien comme ouais. Ça, un truc...
Communiqué qui invitait les personnes qui avaient agressé, entre guillemets, cette personne prenant des photos, à quitter le camp, puisqu'elles n'avaient rien à y faire, étant donné leur usage, la violence, etc. Mm. Et il y a aussi, justement, par rapport à la répression, il y a un rapport à l'État et à la justice, la prison, etc. C'est d'autant plus étonnant qu'en fait, tout au long de ces jours-là, le silence est d'autant plus assourdissant que dans le même temps, pendant ces jours-là, on nous a vraiment neutralisé, on a senti qu'il y avait une tentative de neutralisation de toute contestation, de tout usage de la violence par l'expérience basque, mais qui était utilisée par les gens les plus... par les gens justement qui voulaient pas qu'on parle de tout ça, mais qui disaient c'est pas en terre basque ici que vous allez nous apprendre comment vous nous accusez de collabos alors même que nous on est des basques, etc. C'est particulièrement, alors qu'en réalité voilà, il y aurait eu un, enfin je pense que, enfin voilà, on parle de nous, mais je pense qu'il y a des organisations basques réellement radicales et de gauche, etc., qui s'arrachent aussi les cheveux depuis ce week-end-là d'avoir été littéralement instrumentalisés dans une perspective institutionnelle hyper forte. Et puis voilà, c'était vraiment le discours de dire on va pas apprendre à un Basque à lutter, alors même que au sein des Basques, il y a tout autant de débats qu'au sein de tout le monde. Mais
peut-être, j'ai l'impression aussi que c'est d'autant plus assourdissant que, la répression, elle n'avait pas donc pour but d'empêcher les violences, puisque, comme on vient de le dire, de toute façon, elle n'aurait pas eu lieu, ou du moins à peine exprimée, ni même de pouvoir faire le sommet correctement, puisque de toute façon, vu les 13 000 policiers, les barricades, la maritime, tout ça, que presque de démontrer... que la répression ne sera pas liée à la violence. Je ne sais pas comment formuler la chose, mais disons qu'il y a eu que les arrestations faisaient partie de la communication même du sommet. Et alors là, je m'avance, je ne sais pas trop quoi en dire, mais que le fait que des images publiques, non seulement donc de gens qui sont parfaitement pacifistes, qui se font arrêter, mais aussi des journalistes, y compris des journalistes étrangers qui se font donc contrôler plusieurs fois, confisquer le matériel, puis empêcher de prendre des images, tout ça, et qui n'a jamais été démenti, qui d'ailleurs était vraiment publiquement assumé, ainsi que l'arrestation des observateurs de l'Amnesty International et de l'ONU, de l'LDH, excusez-moi, c'est quand même assez hallucinant, presque une démonstration lors de ce G7 que le gouvernement n'est pas plus démocrate qu'un autre. Et c'était important de le rappeler aux partenaires économiques et politiques de la France. On est nous aussi capables de faire taire notre population. Regardez comment on sait bien le faire. Parce que, la publicité qui a été faite de tout ça, alors même qu'il ne se passait rien, est proprement hallucinante, en fait. Mmh. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti à ce moment-là, de comment va jouer la communication sur ça, quoi. Enfin, à la fois sur vous, votre non-violence, et de l'autre côté, la répression de l'État qui a lieu à ce moment-là, quoi.
Mais c'est ça, c'est une dialectique, en fait, hyper bien rodée entre... on a besoin d'un peu de... Enfin, c'est un peu l'état du champ de l'altermondialisme et du droit de... Enfin, des approches institutionnelles et en termes de droit, etc. C'est qu'il faut qu'il y ait quand même un peu d'abus de l'État pour pouvoir les dénoncer. Parce que, voilà, mais l'État est content de les faire, en fait. Il faut aussi qu'il montre qu'il est capable d'en faire, et il faut qu'il y ait des gens capables de les dénoncer également, sans que ça aille plus loin. Et puis, il faut qu'il y ait qu'on ait une opposition qui soit tout à fait domestiquée. Mais qui en même temps s'autocongratule. Enfin, c'est ce qu'elle veut faire. Elle est contente de pouvoir faire ça, et en même temps, elle est contente de pouvoir dire que.
Peut-être l'élément aussi, c'est la congratulation du gouvernement vis-à-vis de la plateforme.
Parce que c'est ça.
Quitte à gonfler les chiffres eux-mêmes, en fait.
Oui, absolument. Mais est-ce qu'il faut un peu bafouer un peu les droits des démocratiques, entre guillemets, mais il faut quand même qu'ils puissent s'exprimer. Sinon, c'est trop. Et puis en plus de ça, voilà, ils ont fait le travail, les plateformes ont fait le travail de séparer le bon grain de l'ivraie en littéralement faisant tout pour que à Hendaye ce soit l'opposition respectable et puis à Bayonne le lumpen prolétariat. C'est parfait en fait, c'est vraiment tellement bien rodé que je pense que c'est win-win quoi, win-win situation. Mais tout le monde est content.
Et du coup peut-être ça nous
l'État démocratique. Fort que jamais grâce à ça, quoi.
Oui. Mais peut-être ça pose presque la question de à quel point les contre-sommets légitiment les sommets, quoi. Et que, d'ailleurs, presque, on a vu qu'il ne s'est rien passé au sommet, on a presque plus parlé du contre-sommet que du sommet, et heureusement qu'il y avait quand même quelques personnes pour aller taper sur les grilles des CRS, sinon il n'y aurait rien eu à montrer de ce contre-sommet, il ne se serait rien passé à Bayonne, en fait. Et ça aurait peut-être été dramatique, finalement, pour ce sommet. Et du coup, à quel point à la fois le sommet a besoin du contre-sommet et finalement participer... Comment sentir venir le traquenard ? Et ce n'est pas si évident, parce que de fait, il y a des débordements possibles. Et des fois, ça déborde, et de fait, ils perdent le contrôle, et c'est le moment d'une démonstration que non, ils n'ont pas le contrôle. Et du coup, nous-mêmes, on a une dialectique vis-à-vis de ça, comment on espère que ça va marcher et qu'on pourra déborder. Enfin, voilà, c'est quand même assez compliqué, mais c'est clair qu'il faut voir que nous, on se pose ces questions-là de comment on fait vis-à-vis dans ces moments-là. Enfin, c'est évident, même ne serait-ce que comment on reprend la main, c'est sûr.
Est-ce qu'on conclut là-dessus ?
Bah, je sais pas si tu
Est-ce que tu veux rajouter un petit mot ?
Quelque chose ?
Non, bon. En tant qu'invité d'honneur ?
J'ai tout dit.
Eh ben merci.
Bah merci d'être venu nous raconter comme ça ce qui s'est passé, parce que nous on avait toujours par médias interposés, mais c'est jamais très facile. Alors si peut-être une précision, c'est que c'est jamais très facile de savoir qui on va faire venir et interviewer dans ces conditions-là, puisque justement il s'agit d'un dissensus. Et donc ça va être peut-être simplement un moment de confiance où on fait confiance à la personne qu'on a invitée, et vous avez plus qu'à nous faire confiance. de toute façon il y a eu d'autres sons de cloche, tout ça. On a en tout cas essayé d'espérer d'avoir quelqu'un qui nous raconte en tout cas son ressenti, qui n'engage pas forcément beaucoup plus.
Voilà, sachant qu'il y a eu aussi pas mal de bilans qui ont été faits de ce G7 et contre G7 sur les sites de médias alternatifs de nos petits camarades. je pense en particulier Paris Lutte Info et Expansive, mais évidemment partout il y a eu des bilans, donc on vous invite, si vous voulez en savoir plus, à aller faire une petite recherche sur ces sites-là.
Bien, eh ben, il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée, et puis on se dit, alors nous, donc jeudi prochain, je ne sais pas ce qu'il y aura, par contre nous dans 15 jours, ce sera probablement une émission sur la collapsologie, et peut-être on essaiera de faire un petit cycle sur la collapsologie, peut-être même en réponse finalement à cette première émission de l'année, voilà. Eh bien, bonne soirée.
Dun 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 dun.